Bienvenue sur le podcast Les recettes de Jaco, un format audio réalisé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs dans lequel on vous donne les clés et stratégies les plus efficaces pour le web et les réseaux sociaux. Je suis Arnaud Vautier, COO et stratège des réseaux sociaux de Jaco, qui est un véritable booster de croissance pour les TPME ambitieuses à qui on permet d'accélérer leur développement grâce à la puissance des réseaux sociaux. Notre fibre entrepreneuriale et les expériences que nous avons acquises à travers notre métier nous ont encouragés à faire entendre notre voix sur le web, car beaucoup de petites entreprises ne savent pas quel chemin prendre lorsque l'on parle marketing digital. Retour d'expérience, interview et partage, bienvenue dans les recettes Jaco, où vous allez découvrir ce monde parallèle qu'est le marketing digital. Avec un nouvel épisode toutes les deux semaines, abonnez-vous aux recettes de Jaco via la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Aussi, je vous invite à nous donner 5 étoiles pour donner le maximum de chance aux structures dans le besoin de découvrir notre podcast qui, vous allez le voir tout de suite, est très riche en connaissances. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode des recettes Jaco. Ici Arnaud et comme vous le savez toutes et tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce nouvel épisode. Notre guest du jour est Thomas Jossom. Donc bonjour Thomas, comment vas-tu ?
Salut Arnaud, ça va et toi ?
Ça va très bien, merci. Alors Thomas, moi je te connais déjà un petit peu. Est-ce que pour toutes nos auditrices et nos auditeurs, tu pourrais te présenter dans les grandes lignes, nous dire ce que tu fais, qui tu es et nous parler rapidement de ton parcours ?
Yes, avec plaisir. Donc moi je m'appelle Thomas Jossom, j'ai 30 ans et je suis spécialiste en publicité digitale, donc okay. Notamment en publicité sur Facebook et sur Instagram. Okay. J'ai lancé mon activité en mars 2019, donc il y a un petit peu plus d'un an et demi. Et la société s'appelle l'agence XPLR. Donc, ça veut dire Explore sans les voyelles. Donc, on peut aussi bien l'appeler l'agence XPLR ou l'agence Explore. Aujourd'hui, on est 3. On est installé à Nantes. Okay. Plus précisément à la cantine numérique. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de la cantine.
Ça me dit quelque chose, ouais.
Ouais. En fait, c'est une association, un espace dédié aux entreprises du numérique qui regroupe des startups, des accélérateurs, des indépendants, tout ça autour du digital. Okay. Ils sont notamment connus pour un gros événement dans le digital, c'est le Web Today.
Ah, c'est là que j'ai entendu parler. J'étais présent au Web Today de l'année dernière.
D'accord, ok. C'est pour cette raison-là. Bon, tu vois, c'est un énorme événement. C'est le plus gros événement sur le digital, juste après le salon Vivatech, je crois.
Exactement.
Donc, voilà pour où j'en suis actuellement.
Ok, super.
Juste avant ça, au niveau de mes études, j'ai fait un master en marketing dans une école de commerce à Bordeaux. Et puis, directement après mes études, j'ai intégré une super entreprise qui s'appelle Meltwater, dans laquelle je suis resté pendant 5 ans.
Yes.
Donc, Meltwater, c'est une entreprise qui propose des solutions autour du marketing digital. Donc, c'est des solutions d'e-réputation, de community management, de marketing d'influence. Donc, on s'adressait principalement à des directeurs communication, des directeurs marketing. Donc, pendant 5 ans, j'ai quotidiennement eu la chance de pouvoir échanger avec ses responsables communication, ses directeurs marketing. Et puis, au fur et à mesure, je me suis créé une réelle expertise sur les sujets liés au digital.
Okay.
J'ai par exemple vu de 2014 à 2019, les réseaux sociaux prendre une place de plus en plus importante dans les stratégies des entreprises.
Tout à fait.
Quand j'ai commencé en 2014 et qu'on parlait de réseaux sociaux, ça arrivait régulièrement qu'on me dise « c'est pas pour nous, c'est pas quelque chose d'important ». Et en 2019, ça devenait un sujet incontournable. Donc voilà, j'ai pu voir et pu constater cette évolution.
Ok, ça fait un beau bagage tout ça.
Ouais, ça fait un beau bagage. Et en 2019, j'ai décidé de réaliser en quelque sorte un rêve, c'est celui de créer ma propre entreprise. Donc j'ai toujours eu ce désir au fond de moi-même. Et puis j'ai sauté le pas en 2019. Puis comme j'avais toujours eu aussi la passion de conseiller des entreprises sur des questions liées au marketing, à la communication, j'ai décidé plutôt de m'orienter sur cet axe-là, sur cette activité d'agence en marketing digital.
Ok.
Et à peu près dans le même temps, je me suis vraiment plongé dans le monde de la publicité digitale.
D'accord.
Donc, j'ai passé beaucoup d'heures à me former, à lire des blogs, à écouter des podcasts comme le tien, à regarder des vidéos sur YouTube.
Yes.
J'ai participé à de nombreuses formations. Puis j'ai eu un client, puis deux, puis trois. Et puis au fur et à mesure, je me suis vraiment créé une vraie expertise sur la publicité digitale, notamment sur Facebook et Instagram, parce qu'on va en parler aujourd'hui. Mais aussi sur d'autres leviers comme Google Ads, YouTube Ads, LinkedIn Ads, etc.
Ok.
Et donc, pour résumer tout ça, aujourd'hui, on est trois dans l'agence, on est situé à Nantes et puis on accompagne et on gère les budgets et les campagnes d'une quinzaine de clients.
Super. Bah, écoute, c'est un beau parcours. Félicitations.
Merci.
pour cette réalisation, parce qu'au final, si ça date de 2019, c'est une jeune agence. Si vous avez déjà un portefeuille de 15 clients, c'est pas mal du tout.
Ouais, on en est plutôt fiers. Ouais.
Et donc, tes collaborateurs associés, c'est les gens avec qui tu as monté l'agence ou qui t'ont rejoint en cours ?
C'est pas des associés, c'est des personnes qui m'ont rejoint en cours. En plus, elles m'ont rejoint assez récemment. Elles m'ont rejoint au début du mois de septembre. Donc, tu vois, ça fait un mois et demi.
Effectivement.
Avant ça, j'étais tout seul. Alors, sur quelques missions, j'étais accompagné de freelance, d'autres collaborateurs. Et aujourd'hui, on est trois, c'est une vraie étape pour moi. Donc, je suis vraiment, vraiment content. Ça donne de nouvelles perspectives et ça évolue dans le bon sens.
Ben ouais, carrément. C'est un bon moyen de passer au niveau supérieur, si on peut dire, d'avoir de nouveaux collaborateurs, parce que ça, en l'occurrence, ça triple ton champ d'action et l'impact que tu peux avoir, vu que vous êtes trois maintenant, t'es plus tout seul. Donc c'est vraiment top. Et puis d'avoir des gens qui sont directs en interne, c'est sûr que ça fait la diff, même si les freelances sont toujours très qualifiés.
Oui.
C'est jamais les mêmes échanges.
Oui.
Ok, super. Ben effectivement, comme tu l'as dit, aujourd'hui, on va profiter de ton expertise sur le sujet pour parler précisément de Facebook et Instagram et de la partie ads sur ces deux plateformes.
Ouais.
Donc, c'est clairement aujourd'hui des canaux d'acquisition publicitaire qui sont en train de prendre une place hyper importante dans l'environnement business en France. Mmh. D'autant plus depuis le Covid, parce que les gens se sont rendus compte de l'importance du digital. Est-ce que tu pourrais nous dire, parce que moi je le sais bien évidemment, mais je ne suis pas sûr que toutes celles et ceux qui nous écoutent le sachent, qu'est-ce que c'est concrètement Facebook et Instagram Ads ? Et en quoi c'est important pour une entreprise ou un entrepreneur ?
Oui, c'est une question un peu pas compliquée, mais il y a plusieurs manières de l'expliquer et pour… Pour commencer, en tout cas, je soulignerai l'importance des réseaux sociaux, comme tu viens de le dire, et puis aussi comme on peut le constater dans de nombreux podcasts que tu as récemment réalisés. Tu as pu parler avec plusieurs social media managers, plusieurs community managers qui ont tous souligné à quel point aujourd'hui c'est essentiel d'assurer une présence à son entreprise les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs, comme tu le disais dans un récent podcast, devenu le premier point d'entrée sur le digital pour beaucoup d'entreprises.
Clairement, ouais.
Et donc, quand on parle de réseaux sociaux, on ne peut pas passer à côté de Facebook et d'Instagram. Mmh. Ça reste deux réseaux sociaux, qui sont plus qu'importants. En France, Facebook et Instagram, ça représente plus de 40 millions d'utilisateurs.
Ce qui est énorme.
Ce qui est énorme, si on met de côté les moins de 10 ans et les plus de 80 ans, ça représente très largement plus de 2 personnes sur 3 qui utilisent régulièrement Facebook et Instagram. Et donc, quand on parle de Facebook et d'Instagram, je vais même faire une petite parenthèse à ce sujet-là.
Oui, bien sûr.
Je vais dire Facebook plutôt qu'à chaque fois Facebook et Instagram.
Ouais.
Et quand je dis Facebook, je parle de l'écosystème de Facebook. Donc, j'inclus directement Instagram, Messenger et toutes les applications qui font partie du groupe Facebook.
Oui, voilà, parce que petite précision, normalement, ça se sait aujourd'hui parce que ça a beaucoup été publié publiquement récemment. Mais si vous ne le savez pas encore, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, Instagram appartient à Facebook et les interfaces publicitaires de Instagram se gèrent directement sur la plateforme de Facebook. Donc, vas-y, je te laisse continuer.
Exactement. Voilà, on peut refermer la parenthèse et reprendre justement, expliquer ce qu'est Facebook Ads. Donc, quand on va sur Facebook et qu'on a une entreprise, on a deux manières de diffuser du contenu. On peut soit le faire gratuitement, ou de manière organique, ou on peut payer pour diffuser son contenu. Alors là, on peut se poser la question, à quoi ça sert de payer si je peux le faire gratuitement ?
Tout à fait.
Chacune des deux manières a des avantages et des inconvénients. Et c'est important, par contre, pour bien comprendre ce qu'est la publicité Facebook, de bien distinguer les deux. Donc, quand on parle de publier du contenu sur Facebook ou sur Instagram de manière gratuite, entre guillemets, on va parler de portée de diffusion organique. C'est ce qui va correspondre à des activités de community management, etc. C'est essentiel pour une entreprise aujourd'hui d'assurer une présence sur une page Facebook, d'assurer une présence sur un compte Instagram.
Oui.
Mais quand on va chercher à avoir des résultats, ça nécessite d'être patient. Parce que c'est pas en commençant à publier sur un compte Instagram ou sur une page Facebook qu'on va en à peine un mois se créer une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc, ça demande de la patience et on est aussi limité quand on va diffuser par la taille de son audience. Grosso modo, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si j'ai 1000 followers sur Instagram, bah, quand je vais faire une publication sur Instagram, je vais être limité par ces 1000 personnes qui vont voir ma publication. Et j'aurais même envie de dire par moins que ça, parce qu'aujourd'hui, la portée organique sur Facebook et sur Instagram a tendance à diminuer. Et en fonction de la qualité du compte, de la qualité du contenu, on va toucher 20, 30, 40, peut-être même 50% de cette communauté-là. Mais ça reste petit quand on va vouloir se développer, quand on a une entreprise ou une marque qui peut potentiellement intéresser des dizaines de milliers de personnes. Si on est limité par cette audience-là, on va avoir du mal à grandir rapidement. C'est essentiel de faire du community management, ça permet de grandir et d'engager une communauté, mais ça nécessite d'être patient et on est tout de même limité par la taille de l'audience qu'on a réussi à se créer.
Tout à fait.
Bon, pour contrecarrer ça, on a de l'autre côté la publicité sur Facebook. Là, on n'est plus limité en termes d'audience. On le rappelle, il y a 41 millions de personnes qui utilisent Facebook et Instagram en France. Et puis aussi, ce qui est important de souligner à ce stade-là, c'est que Facebook et Instagram, c'est pas qu'un réseau social pour les jeunes. On estime d'ailleurs qu'il y a plus de 35% de ces utilisateurs qui ont plus de 50 ans.
Ouais.
Donc, beaucoup d'utilisateurs, une bonne répartition de l'âge, ça offre la possibilité aux entreprises de toucher et de communiquer avec une audience ciblée sans être limitée par la taille de leur communauté.
Exactement.
Donc, par exemple, si je suis une marque de vêtements pour hommes, bah, je vais pouvoir cibler les hommes qui ont entre 25 et 35 ans, qui habitent en France et qui s'intéressent à la mode, par exemple. Donc, je vais avoir une audience assez qualifiée. Et parmi ces personnes-là, même si elles ne me connaissent pas, je vais pouvoir les toucher, communiquer auprès d'elles. Donc, ça, c'est la grosse différence entre un post gratuit sur Facebook et une publicité payante sur Facebook. Donc, ça permet d'élargir tout de suite son audience en faisant évidemment en sorte qu'elle reste de qualité et bien ciblée.
Bien sûr.
Et ça permet derrière, bah, évidemment, de répondre à des objectifs de notoriété, d'accroître le trafic sur son site web et de générer des conversions. Et bah, je pense parler pas mal de conversions pendant ce podcast. Quand on parle de conversion, c'est-à-dire vendre ses produits en ligne ou générer des demandes de devis en ligne, générer des téléchargements de brochures en ligne, avoir des formulaires renseignés en ligne, etc.
C'est ça, toutes les actions qui vont permettre de récolter une donnée précise ou de déclencher une vente derrière au final.
Exactement.
Donc, ouais, c'est très bien résumé. Hein. J'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que dire effectivement la pub, comme tu l'as très bien dit, sert à booster en quelque sorte la partie organique parce que ben on peut toucher une audience plus large, on peut aussi diffuser le contenu de manière plus large. Donc c'est un super complément, surtout que d'autant plus dans ce contexte où on a beaucoup de petites structures d'entrepreneurs qui se lancent, de jeunes entreprises qui ont cette problématique de devoir accélérer en quelque sorte rapidement parce que ben la trésorerie se fait compliquée et malheureusement dans les mois à venir le climat économique risque pas de s'améliorer beaucoup en France. Donc il faut effectivement atteindre un certain cap, un certain palier de santé financière rapidement et la publicité sur les réseaux sociaux fait partie des canaux d'acquisition hyper puissants de ce côté-là.
Oui, oui, je suis tout à fait aligné et d'accord avec toi à ce sujet-là. Et puis, on peut aussi le mettre en comparaison avec des médias plus classiques sur lesquels on peut aussi faire de la publicité. Par exemple, la presse, la publicité en affichage dans la rue, la radio, la télé, etc. Aujourd'hui, communiquer pour une entreprise, ça reste vital si on souhaite vendre ses produits, trouver des nouveaux clients. Mais ces médias plus classiques, ils ont plusieurs inconvénients. En tout cas, comparé à Facebook, c'est qu'ils sont moins accessibles. Sur Facebook, on peut se lancer avec un petit budget et voir justement comment ça fonctionne avant d'investir davantage. Alors qu'en comparaison, par exemple, une publicité à la télévision, ça nécessite de dépenser des dizaines de milliers d'euros avant même de savoir si ce que ça va nous rapporter.
C'est ça. Sans compter toute la partie production du
contenu
qu'il faudra diffuser.
Exactement. Puis, on peut plus facilement cibler sa propre audience et dépenser du budget média pour uniquement toucher ses clients potentiels. Alors que bah, si je reprends cet exemple de, de marque de vêtements pour hommes, si je fais une publicité à la télé ou à la radio, je vais dépenser du budget média, mais c'est pas dit qu'il n'y ait pas de femmes, par exemple, qui écoutent ou regardent ma publicité.
Ouais.
Donc là, je vais avoir une audience bien plus qualifiée. Puis on en reparlera certainement tout à l'heure, mais ce qui est aussi super avec la publicité sur Facebook, c'est qu'on va pouvoir tout analyser. On va savoir exactement combien de personnes on a touché, combien de personnes sont venues sur notre site grâce à la publicité. Tu vas aussi pouvoir évaluer un retour sur investissement. Et ça, c'est essentiel. Ça permet derrière de pas considérer ce levier comme une dépense, mais plutôt comme un investissement.
Ouais, très concrètement. Je suis 100% d'accord. Et c'est vrai qu'on l'a pas souligné tout de suite. Mais aujourd'hui, c'est clairement le canal d'acquisition publicitaire le moins cher, en fait. En tout cas, des autres canaux traditionnels, ça c'est sûr, et même des canaux 2.0, sauf erreur, la publicité sur Facebook comme sur Instagram, ça reste la régie publicitaire réseaux sociaux la moins chère, parce que si on sort, on va sur YouTube, sur LinkedIn ou sur Snapchat et autres, en général, les budgets minimums sont déjà beaucoup plus conséquents. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que c'est ça.
Je suis en partie d'accord avec toi. C'est pas nécessairement la moins chère, ça dépend évidemment de la qualité de sa publicité, de la stratégie qu'on va mettre en place. Plutôt que de parler de quelque chose de moins cher, je pense qu'aujourd'hui, c'est un levier sur lequel c'est, entre guillemets, devenu plus abordable d'être rentable.
Oui.
Mais c'est vrai que tu parles de publicité pas chère, sur Facebook, c'est pas étonnant d'avoir, par exemple, des coûts pour 1000 impressions. Donc, le coût pour être affiché 1000 fois dans un fil d'actualité qui vont être inférieurs à 5 euros. Et donc, en dépensant moins de 5 euros, pouvoir être diffusé 1000 fois, c'est vraiment ridicule par rapport à ce qu'on pourrait trouver ailleurs.
C'est ça. Alors, d'ailleurs, pour parler un peu de ça, parce que la publicité Facebook et Instagram compris, ça représente plusieurs objectifs. Notamment, on a des objectifs sur la conversion, donc qui est clairement le plus intéressant à mon sens.
Je suis d'accord avec toi.
Voilà, et on en a déjà parlé. Mais on a aussi d'autres objectifs qui peuvent parfois intéresser certaines marques, comme par exemple de l'acquisition d'abonnés, de l'acquisition d'utilisateurs. Ça reste la conversion, mais acquisition d'abonnés et développement de notoriété via le boost de publication. Qu'est-ce que tu penses de ces autres objectifs-là?
Alors, qu'est-ce que j'en pense? Tout dépend évidemment de l'objectif de l'entreprise en face. Mais pour une petite entreprise qui va avoir un budget auquel elle va devoir faire attention et contrôler chacune de ses dépenses, moi, je suis aligné avec ce que tu disais au départ sur le fait qu'un objectif de conversion, ça reste l'essentiel, parce que toucher, par exemple, utiliser un objectif de notoriété ou un boost sur une publication, ça va être super, ça va nous permettre de diffuser notre publicité à un maximum de personnes, mais c'est pas ça qui va nous permettre d'aller toucher de potentiels acheteurs ou de futurs clients et prospects.
Exactement.
Alors qu'avec un objectif de conversion, on va peut-être toucher moins de personnes, avoir moins de trafic, mais on va surtout miser sur la qualité. Donc on va avoir un ratio quantité versus qualité qui va être meilleur.
Exactement. Donc, très concrètement, alors ça, c'est bien que tu le soulignes et attention, j'en profite pour faire un rappel ici. Nous, chez Jaco, on accompagne souvent des petites structures, des structures qui ont moins de 2 ans ou qui ont à peine plus de 2 ans, donc qui sont encore vraiment dans une phase de recherche, de croissance. Et l'une des choses qui revient le plus souvent quand on leur dit « Est-ce que vous avez déjà fait des publicités sur Facebook et Instagram ?» c'est « Oui, mais ça n'a pas rapporté grand-chose, on n'en est pas satisfait. » Et quand on regarde pourquoi, c'est parce qu'ils ont fait des boosts de publication et globalement des campagnes sur des objectifs de notoriété. Et comme tu l'as très bien dit, quand on est une petite structure et qu'on a un budget limité, clairement, en dehors de l'objectif de conversion, tous les autres objectifs, c'est en quelque sorte, entre guillemets, un luxe. Oui. Parce qu'on peut se permettre de faire du boost de publication, de notoriété, etc., etc., uniquement quand on a du budget à consacrer à ça. On n'est pas dans le rouge au niveau des finances. Et d'ailleurs, si on regarde du côté publicitaire, on s'aperçoit que c'est souvent les groupes qui crament énormément de budget juste pour faire du boost de publication. Mais au final,
derrière, d'accord avec toi.
On va peut-être avoir 1000 interactions en plus sur une publication, mais derrière, on n'aura peut-être même pas une vente. Alors qu'en parallèle, on fait une campagne de conversion, on va pouvoir générer plusieurs ventes et donc être rentable. Et c'est tout de suite plus intéressant quand on est une petite structure, quoi.
Ouais, je suis totalement aligné avec ce que tu viens de dire. Dans 90% des cas, pour pas dire 100% des cas, avec nos clients, on fait que des campagnes de conversion, quoi. Le but, c'est vraiment de mettre en place des stratégies qui vont nous permettre au fur et à mesure d'avoir des campagnes de publicité qui nous permettent d'être rentables. Et quand je dis être rentable, c'est-à-dire que quand on dépense 1 € en pub, ça nous en rapporte 2, 3 ou plus derrière. Et les campagnes avec un objectif de conversion, c'est ce qui fonctionne le mieux pour mettre en place ce type de stratégie.
Exactement. Alors là, on a parlé de Bah clairement, hein, ça vous pouvez le noter si c'est un sujet que vous ne connaissez pas. Campagne de conversion, c'est le plus important si vous avez une petite structure, très concrètement. Maintenant, donc ça, c'est le premier facteur à prendre en compte pour l'importance des petites structures d'utiliser ce canal d'acquisition-là. Le second, tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure, c'est la partie données, la partie analytics, donc toutes les datas qu'on va pouvoir récolter sur notre audience, les informations qu'on va pouvoir récolter sur notre audience. Et c'est vrai que c'est hyper important comme sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Alors, je vais commencer par parler du pixel Facebook qui va donner beaucoup de sens à ces données-là. Le pixel Facebook, c'est un bout de code qu'on installe sur son site web et qui permet de faire une liaison entre ce qui va se passer sur votre site web après qu'une personne ait cliqué sur votre publicité. C'est un bout de code qui aujourd'hui, tout comme on vient d'en parler pour les campagnes de conversion, devient essentiel pour lancer une campagne. J'ai même limite envie de
Clairement.
dire, ne lancez pas de campagne de publicité sur Facebook et Instagram si vous n'avez pas un pixel d'installer sur votre site internet.
Tout à fait.
Sinon, vous ne serez pas en mesure de déjà analyser les résultats de vos campagnes, ou en tout cas des résultats concrets autres que les impressions ou le clic sur vos publicités.
Ouais.
Et ça va vous permettre aussi de donner des indications à Facebook pour mieux diffuser votre publicité. Donc avec le pixel sur votre site web, Facebook va se nourrir en données et ces données, il va les utiliser comme boussole ensuite pour aller trouver les internautes les plus intéressants pour vous, en tout cas ceux qui vont être les plus intéressés par les produits ou les services que vous allez pouvoir proposer. Et ça va vous permettre aussi derrière de mettre en place des stratégies. Donc quand je parle de stratégie, c'est par exemple avoir des campagnes de publicité qui vont être destinées à toucher des nouvelles audiences, mais aussi mettre en place derrière ce qu'on appelle du retargeting,
Tout à
donc
fait.
de vous permettre de continuer à communiquer avec ceux qui sont venus une première fois sur votre site internet, qui ont commencé à découvrir qui vous êtes, qui ont commencé à découvrir vos produits, vos services, mais qui n'ont pas encore passé à l'acte d'achat ou qui n'ont pas encore renseigné de formulaire, parce qu'on le sait, bah, ce n'est pas nécessairement en allant pour la première fois sur un site qu'on va en plus regarder les produits, les ajouter à son panier,
Ouais.
sortir sa carte bleue pour réaliser un achat. Ça
Tout à fait.
va derrière nécessiter de faire peut-être des recherches sur Google, d'aller voir ce que font les autres acteurs du
Du
marché,
marché, ouais.
de réfléchir, de regarder les avis clients, etc. Et donc le retargeting va vous permettre d'intervenir tout au long du processus d'achat de vos clients.
C'est ça. Donc oui, effectivement, hyper, hyper important le pixel Facebook. Tu l'as très bien expliqué. C'est juste une ligne de code à ajouter sur votre site. Et je sais que ce mot ligne de code peut faire, enfin, cet ensemble de mots peut faire paniquer plusieurs personnes. Rassurez-vous, en fonction comment dire ça, du CMS sur lequel vous êtes, donc WordPress, ça peut être Shopify, ça peut être du Squarespace, etc. Il y a des intégrations spécifiques qui sont prévues pour ça. Et c'est vraiment hyper accessible. Il vous suffit juste de taper sur Google, par exemple, comment ajouter mon pixel Facebook sur mon Squarespace. Et vous allez avoir tout un chemin à suivre et en quelques clics, ce sera fait. Donc, pas de panique, c'est vraiment simple à faire, à installer le pixel. Et comme tu l'as super bien dit, clairement, ne faites pas de campagne de conversion si vous n'avez pas installé votre pixel en amont parce que vous allez y perdre au final, parce que les données ne seront pas récupérées de la bonne façon, vous ne pourrez pas les réutiliser. Et la puissance du pixel pour le retargeting est absolument exceptionnelle, comme tu l'as souligné. Et aussi, comme tu l'as dit, pour les audiences, notamment les audiences similaires, qui permettent en gros de dire, bah voilà, sur telle campagne, j'ai touché des personnes, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, des hommes qui sont intéressés par la mode. Le pixel Facebook, lui, va remonter énormément de données sur ces mêmes personnes et vous allez pouvoir dire, OK, bah en fonction de ma dernière campagne, je veux cibler uniquement les personnes qui ont visité telle page sur mon site. Et
Exactement.
avec ça, vous faites une audience similaire. Donc Facebook va prendre en base cette nouvelle audience et dire, OK, je peux la dupliquer sur 1%, 2%, 3% et ainsi de suite. Et à chaque fois, les volumes vont changer, ce qui va vous permettre de retravailler une audience plus volumineuse, mais cette fois plus qualifiée car avec des critères plus spécifiques.
Ouais, je suis encore une fois aligné avec toi sur ce sujet-là. On vient de
Yes.
parler de quatre points super importants de l'objectif de conversion. Donc, en priorité, utilisez un objectif de conversion quand vous lancez une campagne, en tout cas si vous souhaitez que ce soit une campagne qui vous apporte de la rentabilité. Installez le pixel sur votre site internet avant même de lancer votre première campagne c'est essentiel. Mettez en place du retargeting grâce à ce pixel. Et comme tu viens de le dire, miser sur les audiences similaires, c'est aujourd'hui ce qui fonctionne le mieux quand on parle d'audience froide sur Facebook.
Yes, exactement. Alors là déjà, on a partagé beaucoup, beaucoup de valeurs sur le sujet. C'est hyper vaste d'ailleurs, le sujet de Facebook Ads, et je pense qu'on pourrait en parler plusieurs heures. Donc, le but n'est pas non plus de vous gonfler la tête avec ce sujet, parce que je suppose que déjà, avec toutes les informations données, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête. Donc, je te propose de passer à la seconde, enfin à la partie suivante de ce podcast, à savoir tes astuces, donc plus précisément 3 astuces pour lancer facilement des campagnes efficaces sur Facebook Ads, donc les 3 premiers conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se lancerait pour la première fois. Et je vais juste te demander pour la première astuce, si tu trouves que ça a du sens, tu me le dis sinon, mais est-ce que tu pourrais donner plus un conseil qu'une astuce sur comment on fait pour définir un budget qui est efficace lorsqu'on fait sa toute première campagne de conversion sur Facebook et qu'on a bien évidemment installé notre pixel. Mais comme on n'a aucune donnée remontée, par où on commence ?
Alors, la question du budget, c'est toujours… c'est une question que j'ai quotidiennement avec mes clients parce que forcément, c'est le nerf de la guerre et c'est important de savoir quel budget on doit allouer pour avoir des résultats. Ça reste cependant une question à laquelle c'est difficile de donner une réponse claire et précise parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Forcément, si votre produit coûte plusieurs milliers d'euros et que vous dépensez 10 euros de budget par jour, vous n'attendez pas à avoir des résultats du jour au lendemain. Donc, ça va déjà dépendre du coût de votre produit. Par contre, si vous avez un produit qui ne coûte que 5 euros, vous pouvez potentiellement commencer à avoir des résultats en dépensant une trentaine d'euros par jour. Moi, ce que je recommande souvent à mes clients qui n'ont jamais lancé de publicité sur Facebook, c'est de se mettre un budget sur un mois justement pour pouvoir avoir des indications sur ce qu'ils doivent dépenser pour atteindre leurs objectifs. Et pour ça, on définit un budget qui va être entre 30 et 50 euros par jour. C'est ce qui va être essentiel, enfin en tout cas, ce qui va être nécessaire pour mettre en place une stratégie. Donc, une stratégie qui va nous permettre à la fois de toucher de nouvelles audiences et aussi de mettre du retargeting. Et ça nous permet au bout d'un mois de tirer des conclusions. Donc, déjà de voir si on a été rentable ou pas et de pouvoir calculer des coûts un peu plus, un peu plus fixes. Donc, les CPM, le coût pour 1000 impressions, le coût par visite sur le site web, le coût par ajout au panier, le coût par achat. Et donc, une fois qu'on a tous ces indicateurs-là, on va pouvoir derrière, en fonction de vos objectifs, faire des produits en croix, etc. Et évaluer quel est le budget idéal que vous devez dépenser pour atteindre vos objectifs. Mais c'est toujours une question intéressante. Le coût de la publicité sur Facebook a forcément varié en fonction de l'audience que vous souhaitez toucher, mais les résultats vont aussi varier en fonction de paramètres qui vont être indépendants de la publicité sur Facebook, c'est-à-dire de votre site web, de vos produits, du prix de vos produits, etc. Parce que finalement, une fois qu'on a fait de la publicité sur Facebook, on a attiré une audience qualifiée sur votre site web. Et ce qui se passe après sur votre site web, c'est indépendant de vos campagnes. Donc, il faut que vous ayez un bon site internet sur lequel la navigation est simple. Il faut que vos produits soient au prix du marché. Forcément, on peut attirer un nombre important de personnes qualifiées sur votre site web. Mais si vous êtes 3 fois plus cher sans aucune raison particulière que vos concurrents, ça ne veut pas nécessairement dire que les personnes vont acheter vos produits. Et il faut aussi que vous ayez un bon produit, évidemment.
Ok, donc le conseil au final que tu donnes sur le budget, parce qu'effectivement, quand on se lance, et c'est très juste, on ne sait pas d'où on part parce qu'on n'a aucune donnée. Et on ne sait pas où on va, encore une fois, parce qu'on n'a aucune donnée. Donc, il faut trouver ces différents indicateurs que tu viens de citer. Donc, faire en quelque sorte un premier mois test pour récolter suffisamment de données pour avoir une stratégie claire. Donc, ton conseil là-dessus, c'est vraiment ne pas avoir peur de dépenser un peu de budget pour pouvoir justement aller récolter ces nouvelles données.
Alors, évidemment, il faut que ça reste un budget qui ne vous mette pas dans le rouge.
Oui, tout à fait.
Quand on se lance en publicité sur Facebook, on peut avoir du jour au lendemain de super résultats et récupérer 3, 4, 5 fois ce qu'on a investi. Ça peut aussi ne pas être le cas.
C'est ça.
Donc, dans ces cas-là, il faut aussi que ce soit un budget que vous soyez prêt à perdre, même si j'ai envie de dire qu'il ne sera jamais réellement perdu, parce que si vous faites bien les choses, vous allez quand même récupérer, si vous vendez des produits en ligne, vous risquez quand même d'avoir des, des ventes qui vont être réalisées grâce à vos campagnes. Puis quoi qu'il arrive, vous allez toucher des dizaines de milliers de personnes, vous allez attirer des milliers de personnes sur votre site web. C'est des indicateurs sur lesquels c'est difficile de mettre une valeur monétaire à court terme à côté, mais ça reste essentiel quand on est une entreprise qui cherche à se développer, de toujours élargir son audience et de toujours attirer de nouvelles personnes sur son site web.
Oui, tout à fait. Et comme tu dis, c'est jamais vraiment perdu au final, parce que même quelqu'un qui aurait un problème sur son site web, donc par exemple, on se rend compte que sur ses premières campagnes, on arrive à apporter énormément de trafic sur le site, mais que là, il y a un truc qui coince. Bah, avec le pixel, ces données sont quand même récupérées. Donc, une fois que les optimisations sont faites, vous pouvez réutiliser l'audience pour faire du retargeting ou tout simplement une nouvelle campagne. Et cette fois-ci, ça devrait faire bingo derrière, parce que au niveau de la publicité, les choses étaient faites correctement, quoi.
Exactement. Et ce que tu dis, c'est super intéressant, parce que limite, si j'avais un conseil à donner, ou en tout cas mieux dépenser son budget quand on commence, si vous faites déjà de la publicité sur Google ou que vous avez un super référencement naturel et que donc vous avez un trafic qui est déjà important sur votre site web, misez d'abord sur des campagnes de retargeting. Vous allez vous adresser à des personnes qui vous connaissent déjà, donc vous allez pas nécessairement avoir besoin de expliquer qui vous êtes, quels sont vos produits, quel est votre positionnement, vos missions, etc. Et vous allez pouvoir avoir un message un peu plus commercial, et vous avez plus de chances de convertir auprès de personnes qui vous connaissent déjà, qui ont déjà montré un intérêt pour votre produit ou pour votre service, en vous adressant à ces internautes-là via des campagnes de retargeting. Et donc forcément, ça reste des campagnes sur lesquelles vous allez plus facilement être rentable.
Ouais, donc retargeting, mais là, c'est dans le cas où on a déjà du coup le pixel installé.
C'est dans le cas où on a déjà le pixel installé, et aussi dans le cas où on a forcément un trafic plus ou moins important sur son
site
web.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mmh. Ok. Donc oui, c'est aussi un très bon conseil. Donc on peut même le prendre en deuxième conseil. Premier conseil, c'était pour vraiment les personnes qui se lancent de zéro, on va dire, par rapport à la publicité Facebook et à leur pixel qui vient d'être installé sur leur site. Le second conseil, c'est vrai, commencez par du retargeting. Si vous avez installé votre pixel Facebook, en l'occurrence aujourd'hui et même depuis un moment déjà, lorsque vous passez par des sociétés de dev, il y a de très fortes chances pour qu'ils aient installé le pixel, en fait, dès le départ, en montant le site. Nous, ça nous arrive des fois que voilà, on commence une presta avec un client. Est-ce que vous avez installé le pixel Facebook? Ils nous disent le pixel Facebook, on ne sait pas ce que c'est.
Oui.
Et quand on regarde, on voit qu'il est effectivement installé, parce que les devs qui ont fait le site se sont occupés de mettre tous les pixels de base. Donc, effectivement, derrière, commencer, comme tu l'as dit, avec du retargeting, ça peut être hyper intéressant. Et est-ce que tu aurais un troisième conseil du coup à nous partager?
Oui, et juste petite parenthèse encore une fois sur le pixel. Même si vous n'avez pas prévu de faire de campagne de publicité sur Facebook dans les prochaines semaines, ça ne vous empêche pas d'installer le pixel sur votre site internet. Le pixel cumule de la donnée sur 6 mois. Et toute cette donnée qui sera récoltée avant de lancer des campagnes, c'est des données que vous pourrez utiliser le jour où vous vous lancerez. Ça vous permettra notamment de faire du retargeting, parce que les données récoltées sur le pixel ne sont pas rétroactives, elles commencent à être cumulées le jour où vous l'avez installé. Et puis, ça donnera un petit peu plus de précision à Facebook pour bien diffuser vos campagnes.
C'est ça. Mais du coup, parenthèse de la parenthèse, toi qui écoutes ce podcast aujourd'hui et qui a déjà un site internet mais pas encore de pixel Facebook dessus, même si tu es en train de te dire, comme Thomas l'a dit, c'est super cool comme sujet, mais on verra plus tard pour les pubs Facebook, installe ton pixel cette semaine. Ouais. Comme ça, quand tu commenceras tes pubs, tu auras déjà beaucoup de données remontées et ça sera d'autant plus simple.
On est d'accord. Alors, je ne sais pas si c'est un troisième conseil ou un conseil complémentaire au retargeting, mais c'est super important aussi sur Facebook de réfléchir en fonction de l'audience qu'on va vouloir toucher. Quand on fait du retargeting, on sait qu'on s'adresse à des personnes qui nous connaissent déjà, parce qu'on va s'adresser aux personnes qui sont venues sur notre site web. On peut aussi réengager avec ceux qui ont déjà liké une de nos publications sur Instagram, qui se sont abonnés à notre page Facebook, etc. Mais là, on s'adresse déjà à des personnes qui ont montré un intérêt pour notre entreprise, pour les produits ou pour les services qu'on propose. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir mettre en avant un message soit un peu plus commercial ou rentrer un petit peu plus dans le détail des produits, parler de frais de livraison offerts ou de retour gratuit à partir d'un certain montant. C'est super important de déjà pouvoir distinguer cette audience qui vous connaît déjà et de lui apporter un message adapté justement à cette connaissance de vos produits. Et ça va être aussi super important d'avoir un autre message pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Parce que quand on parle de retargeting, on s'adresse aux personnes qui sont venues sur le site web, mais c'est aussi une audience qui va s'épuiser au fur et à mesure vous n'avez pas de nouvelles personnes qui viennent sur votre site web. Et là, en l'occurrence, vous n'allez pas pouvoir vous adresser de la même manière à une personne qui est venue sur votre site et qui a fait un abandon de panier, par exemple, qu'à une personne qui ne vous connaît pas encore. À ce moment-là, adaptez votre contenu, soyez un petit peu plus générique, mettez en avant votre marque, vos produits, votre positionnement, vos missions. Le but ici, c'est de susciter d'abord un intérêt pour que la personne soit suffisamment intéressée par ce que vous proposez et qu'elle vienne ensuite sur votre site web.
Ok, bah, tu vois, c'est très bien comme conseil parce que ça s'adresse aux deux au final. Autant ça fait écho à ton premier conseil pour les personnes qui commencent de zéro comme ceux qui commencent avec du retargeting. Vraiment, connaître son audience, hein, c'est hyper important. Comme tu l'as bien souligné, votre copywriting, donc c'est comme ça qu'on appelle ça, de vos publicités Facebook, c'est-à-dire les descriptions de vos publicités, la partie textuelle, donc la description de la publication, les titres, etc., ne seront pas écrits et adressés de la même façon en fonction des gens à qui vous vous adressez. Très concrètement, moi, mon téléphone, c'est un Samsung, donc je suis client de Samsung. Les pubs pour découvrir Samsung, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si je vois une pub passer qui me dit « Ok, Arnaud, voici le nouveau téléphone Samsung, blablabla, en gros, le supérieur de celui que j'ai, qui fait telle ou telle chose en plus », là, ça va m'intéresser parce que je connais déjà la marque. Donc, effectivement, à vous d'adapter vos discours, votre façon de vous positionner en fonction de votre audience. Et on revient au final à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est là que c'est important d'avoir toute cette partie donnée, même si vous n'avez pas l'intention de faire des publicités tout de suite. Parce qu'une fois que vous avez les données, quand vous allez commencer à mettre en place vos actions, vous pourrez savoir qui est intéressé par vos pubs potentiellement et donc comment communiquer auprès de ces personnes.
On est d'accord.
Yes. Alors, merci beaucoup pour ces trois conseils. Donc, je récapitule. Le premier, c'était comment vous lancer, on va dire, comment lancer vos premières campagnes de conversion sur Facebook, Instagram, Ads, lorsque vous commencez de zéro. Donc, vous n'avez pas de pixel installé, vous venez de l'installer, donc aucun retour de data, de données, et vous n'avez jamais fait de campagne sur le sujet. Le conseil, c'était en gros de vous mettre en phase de test parce qu'il va falloir remonter des données. Donc, faire en sorte de remonter des données pertinentes en faisant des tests sur un mois au minimum. On est d'accord ?
Ouais, un mois au minimum. Oui, je pense qu'en dessous d'un mois, c'est trop court pour pouvoir tirer des conclusions. Et évidemment, si c'est un mois où j'ai dépensé 5€ par jour, je ne vais pas pouvoir tirer les mêmes conclusions que si j'ai fait un mois en dépensant 100€ par jour.
Exactement, exactement. Ensuite, tout en restant bien sûr cohérent avec votre budget, pas vous mettre dans le rouge, bien sûr. Le second conseil, c'était le retargeting. Donc là, une fois qu'on a remonté assez de données, utiliser cette stratégie publicitaire pour en gros cibler à nouveau les personnes qui vous connaissent déjà ou qui sont déjà venues sur votre site, ou tout simplement commencer par des campagnes de retargeting si vous avez déjà au préalable des données suffisantes pour le faire.
Oui, exactement.
Voilà. Et troisième conseil, c'était connaître votre audience, hein, que vous soyez justement dans cette phase de lancement comme dans cette phase de retargeting. Travailler vos données, travailler votre avatar client pour savoir comment vous devez vous adresser à vos prospects via les publicités pour être sûr de faire bingo, j'ai pas envie de dire à chaque fois, mais le plus souvent possible.
C'est exactement ça.
Yes. Alors, dernier point de ce podcast, de ta venue sur notre podcast, Thomas. Ça m'intéresse de poser cette question.
Ouais.
Dans le contexte actuel, qu'est-ce que tu penses du coup du levier d'acquisition ads, notamment sur Facebook et Instagram, quand on est une petite structure et avec un budget limité justement? Est-ce que c'est un canal sur lequel il faut absolument parier? Est-ce qu'il faut le prendre avec des pincettes ou est-ce qu'il faut le mettre entre parenthèses à cause du contexte?
Alors, un canal sur lequel absolument parier, je ne vais pas répondre oui à ça parce que ça va forcément dépendre d'une entreprise à une autre, mais ça reste un canal intéressant à considérer en tout cas. Aujourd'hui, on est dans un contexte de crise, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Et quand on parle de contexte de crise, on parle d'un contexte dans lequel l'avenir est un peu plus incertain, où les ressources financières peuvent devenir aussi limitées. On va prendre moins de risques et en tout cas, on ne va pas dépenser de budget inutilement et jeter l'argent par les fenêtres. Donc, ça va être super important de faire attention à la manière dont on va dépenser son budget et on va chercher à dépenser un budget de telle sorte à ce que ça nous permette derrière de récupérer de nouveaux clients, des ventes en ligne, de nouveaux prospects, etc. Ça reste aussi important dans ce contexte-là pour une entreprise de continuer à communiquer, à faire du marketing, car si on coupe tous ses leviers, on coupe toute sa communication et tout son marketing, on ne va pas nécessairement trouver de nouveaux clients, continuer à se développer. Et ça reste super super important et c'est essentiel aujourd'hui de pouvoir se montrer ses produits et ses services à ses potentiels clients pour pouvoir continuer à les vendre.
Yes.
Et là, c'est à ce moment-là que la publicité Facebook devient un levier qui a du sens pour plusieurs raisons. Bah déjà, le premier, on l'a vu tout à l'heure, c'est que c'est accessible. Pour pouvoir vous lancer, vous n'allez pas devoir signer un gros chèque dès le départ et vous allez pouvoir prendre la température avant d'investir davantage. Ça va vous permettre aussi de maîtriser vos dépenses. Donc, on en a pas mal parlé, mais quand on fait de la publicité sur Facebook, ce qui est intéressant finalement, c'est qu'on va pouvoir tout analyser. On va pouvoir analyser le nombre de personnes qui ont vu la publicité et combien ça m'a coûté pour toucher 1000 personnes, par exemple. On va pouvoir analyser le nombre de personnes qui sont venues sur le site et combien ça m'a coûté pour qu'une personne vienne sur mon site. Puis on va aussi pouvoir analyser, dans le cas où, par exemple, j'ai un site e-commerce, le nombre de ventes qui ont été réalisées et qui peuvent être attribuées à mes publicités sur Facebook. Donc, on va être en mesure d'ailleurs d'analyser le coût par achat de mes publicités sur Facebook.
Tout à fait.
Et en plus de ça, on va être capable aussi d'évaluer le chiffre d'affaires réalisé grâce à ces publicités sur Facebook. Et là, c'est là où ça devient super important, parce qu'on va avoir un indicateur clé, où c'est celui sur lequel on se base avant tout avec, avec nos clients, c'est de calculer le retour sur vos investissements publicitaires. Donc, en gros, on va diviser le chiffre d'affaires réalisé grâce à vos publicités, ou en tout cas attribuable à vos publicités, par le montant qu'on a dépensé en publicité sur Facebook. Et dans ce cas-là, quand on a un résultat qui est inférieur à 1, ça veut dire qu'on n'est pas rentable, qu'on a dépensé plus que ce que ça nous a rapporté.
Ouais.
Ça arrive régulièrement, ou en tout cas, c'est l'objectif quand on fait de la publicité sur Facebook, d'avoir un ROAS qui soit supérieur à 1 et qui même soit de 2, 3, 4, 5. Un ROAS de 3, par exemple, ça veut dire que quand vous avez dépensé 1 euro en publicité, ça vous a permis de générer 3 euros de chiffre d'affaires en vente sur votre site internet. Et donc ça, ça va être l'indicateur le plus important à analyser et à évaluer, et ça va être aussi l'indicateur qu'il va falloir maximiser et tirer vers le haut quand on va lancer des campagnes, surtout dans ce contexte-là. Parce que si on arrive à avoir un retour sur investissement qui est positif, on est du coup, on n'est plus sur de la dépense, mais on arrive sur de l'investissement.
Exactement.
Qu'on met en budget média, ça nous permet de toucher des nouvelles personnes, de capter un nouveau trafic sur notre site web, et surtout derrière, bah, ça nous permet de réaliser plus de ventes que le budget qu'on a dépensé.
Tout à fait.
Donc, dans ces cas-là, la publicité sur Facebook, ça peut devenir un levier super intéressant dans un contexte comme celui-ci, parce que vous allez être en total contrôle de ces chiffres-là. Vous allez avoir une visibilité sur ces chiffres-là. Et si vous faites bien les choses, vous allez pouvoir plutôt parler d'investissement plutôt que de dépenses.
Tout à fait. Bah, effectivement, voilà, on ne l'a pas précisé, mais comme tu le dis, c'est d'autant plus intéressant en fait si vous avez une activité de e-commerce, c'est clair et net.
Ouais.
Parce que vous allez pouvoir, du coup, comme Thomas vient de vous l'expliquer, mesurer directement de manière très précise les retours sur investissement, hein, très concrètement. Donc, avec la notion de ROI, donc retour sur investissement, et ROAS, donc retour sur budget publicitaire investi. Et c'est vrai qu'en fonction de l'activité, on n'a pas forcément accès à toutes ces données. Je prends un exemple, mais si vous vendez du coaching personnalisé et donc que vous faites du devis sur mesure et que vous ne vendez pas directement depuis votre site, et bien à ce moment-là, votre coût d'acquisition va être calé sur le nombre de rendez-vous fixés avec un nouveau prospect.
Donc
effectivement, les indicateurs varient et les coûts publicitaires, on va dire, sont moins simples à évaluer, mais ils sont bien évidemment toujours quantifiables.
Exactement. Effectivement, dans ce cas-là où, par exemple, on ne vend pas de produits en ligne, mais on vend des services plus personnalisés par lesquels on va d'abord avoir un rendez-vous avec la personne, ce que vous allez pouvoir atteindre comme objectif avec la publicité sur Facebook, c'est le nombre de demandes de contact réalisées. Et après, vous pouvez calculer votre coût par contact, le mettre en corrélation avec le nombre de contacts qu'il vous faut pour réaliser une vente. Et à partir de là, en faisant vos petits calculs, vous saurez assez facilement si la publicité sur Facebook, c'est un levier qui vous permet d'être rentable ou pas. Et aussi pour continuer là-dessus, si on n'est pas rentable, ce qui est intéressant avec la publicité sur Facebook, c'est qu'on peut couper tout de suite ses campagnes et donc on évite de dépenser du budget inutilement. On peut aussi aller analyser ce qui fonctionne moins bien. On peut voir qu'une campagne a mal performé parce qu'on n'avait pas ciblé la bonne audience, on n'avait pas vraiment travaillé sa publicité avec le bon message, le bon visuel, etc. Et on va pouvoir faire différents tests et aller identifier ce qui va nous permettre à chaque fois de maximiser nos résultats. Donc ça, c'est super, ça devient presque du trading au final. On va mettre en place différents tests, on va émettre différentes hypothèses et puis au fur et à mesure, on va écarter les hypothèses qui ne fonctionnent pas et continuer à miser davantage sur les hypothèses qui fonctionnent le mieux pour à chaque fois tirer vers le haut le retour sur investissement de vos campagnes.
Tout à fait. Bah écoute, c'est très clair. Et je pense qu'on a pas mal fait le tour du sujet, en tout cas
Ouais.
pour aujourd'hui, hein. Encore une fois, le but n'est pas de vous noyer dans la formation. Je pense que la valeur qui a été partagée sur ce podcast par Thomas suffira à vous donner des bases suffisantes pour pouvoir commencer à faire vos propres campagnes vous-même ou optimiser vos propres campagnes si vous en avez déjà en cours. Le cas échéant, où est-ce qu'on peut te contacter, Thomas?
Bah, sur LinkedIn, vous tapez
Ouais.
Thomas Jossomme sur LinkedIn et vous allez me trouver. Vous pouvez aussi me contacter par email, c'est thomas@agenceXPLR.com. Vous pouvez aussi aller directement sur le site. Il y a un espace blog avec plein d'articles. On va essayer de faire les articles les plus complets sur les audiences Facebook, sur combien coûte la publicité sur Facebook. On en a parlé rapidement, mais celui qui veut une réponse précise, il y a un article assez long sur le sujet, long mais
Okay.
précis, sur d'autres leviers d'acquisition aussi. Et sur cet internet-là, vous avez aussi un petit espace pour pouvoir me contacter.
Yes, parfait. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens sur la description du podcast. Et je peux que vous recommander de contacter Thomas si vous avez des besoins sur ce sujet et d'ailleurs d'aller lire
Merci.
Ces fameux articles. Parce que pour la petite anecdote, si Thomas est sur ce podcast aujourd'hui, c'est grâce à un de ses articles,
Oui.
entre guillemets. Parce que je suis tombé sur un de tes articles qui parlait, alors c'était sur LinkedIn, il me semble, c'était pas
C'était
du
sur la
Facebook.
publicité LinkedIn, ouais.
C'est ça, mais hyper clair, hyper détaillé avec de superbes exemples. Et quelqu'un sur LinkedIn s'était amusé à copier-coller le texte de Thomas en se l'appropriant, en fait, tout simplement. Donc, du vol de contenu, très concrètement. Et puis, j'ai marqué Thomas là-dessus et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger ensemble. Et il m'a dit, écoute, j'aimerais beaucoup passer sur le podcast des recettes Jaco pour parler de la partie ads. Donc, vraiment, je recommande à fond ces articles de blog.
Merci beaucoup.
Merci,
Arnaud,
plaisir,
c'est super sympa.
Avec plaisir. Et puis, merci à toi encore pour ta venue sur le podcast.
Merci à toi, Arnaud.
Et puis, je te dis à très bientôt.
À bientôt.
Bye. Me revoici, ce qui veut dire que cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez appris des choses intéressantes pour Facebook Ads et Instagram Ads. Et précisément, si vous êtes dans ce besoin actuellement que de déployer ces canaux d'acquisition, eh bien, que ce podcast vous aura permis d'avoir les bases suffisantes pour vous lancer sur le sujet. Le cas échéant, comme vous le savez très bien, vous pouvez contacter directement notre guest du jour qui était donc Thomas Jossomme sur LinkedIn via son prénom et son nom, donc Thomas, Thomas, et Jossomme, Jossomme, ou alors directement sur le site internet de son agence, AgenceXPLR. Aussi, si vous avez des retours à nous faire sur le podcast de manière générale, que ce soit sur cet épisode ou sur les recettes Jaco au sens large, eh bien, écrivez-nous. Franchement, ça nous fera plaisir d'avoir vos retours, qu'ils soient positifs ou pas. On sait très bien que le contenu n'est pas parfait, donc on prend tout ce qui est piste d'amélioration si vous avez des suggestions, bien évidemment. Et si cet épisode vous a plu, je ne peux que vous inviter à nous laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez actuellement pour pouvoir permettre aux autres personnes qui ne connaissent pas encore les recettes Jaco de pouvoir trouver ce contenu plus facilement. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye.